Depuis toute cette semaine, depuis le début de la semaine, il y avait un thème que j'avais vraiment envie d'aborder avec vous, c'est le thème de l'influence. Et je crois que c'est un thème qui est intéressant et qui est important qu'on puisse aborder ensemble parce que quand on parle d'influence, on a toujours l'impression que l'influence que nous pouvons exercer dépend de la position que nous avons, d'une fonction que nous remplissons, de compétences particulières que nous pouvons avoir. Et par exemple, vous savez, chaque année, vous avez un magazine américain, le magazine Time, qui fait le classement des 100 personnes les plus influentes dans le monde. Alors c'est assez intéressant de se pencher sur cette liste, c'est ce que j'ai fait parce qu'elle vient d'être dressée pour l'année 2018. Et on trouve dans cette liste le nombre de personnes qui sont très influentes dans leur domaine, dans le domaine politique, dans le domaine du sport, dans le domaine de la musique, du cinéma, dans le domaine de la mode, des affaires. Donc voilà, vous avez quelques exemples. Alors ce magazine américain nous donne une information très intéressante, c'est que la plupart des personnes les plus influentes dans le monde sont américaines, déjà. On a quand même quelques Français, on a deux Français quand même dans la liste. On a un artiste qui s'appelle JR et puis on a Emmanuel Macron quand même qui est devenu président de la République à 39 ans. Donc ça fascine le monde. Dans notre vieux pays, on a ça. Mais vous voyez, alors attends, on revient sur la diapo d'avant. Voilà, donc vous avez Federer dans le monde du sport, vous avez le prince Harry, forcément, avec son épouse, Donald Trump. Alors la famille Trump est bien représentée aussi, hein, parce qu'il y a sa fille et son gendre aussi qui sont dans la liste. Rihanna, et puis aussi dans le monde des affaires, des gens comme Jeff Bezos, qui est le chef de l'entreprise Amazon, qui est évidemment une entreprise très performante. Et alors oui, vous avez un autre magazine qui s'appelle Vanity Fair qui a fait le classement des 50 personnes, des 50 Français les plus influents dans le monde. Alors voilà les gens qu'on retrouve, vous avez Xavier Niel qui est le PDG de Free, vous avez Zinedine Zidane bien entendu, un personnage les plus influents dans le monde du sport et sans doute même au-delà, vous avez la famille Macron hein, qui est bien représentée, l'épouse du président, notre First Lady, notre première dame, Brigitte Macron, Thomas Pesquet quand même, qui a été pendant plusieurs mois dans l'espace là. Et puis Alain Ducasse, c'est là, il est en cinquième position des Français les plus influents dans le monde. Un cuisinier, forcément. Hein. La cuisine française, elle rayonne dans le monde. Et c'est grâce à des gens comme Alain Ducasse. Alors forcément, quand on se penche sur ce genre de liste, ça donne vraiment l'impression qu'il faut faire partie d'une élite. Il faut avoir des compétences particulières pour pouvoir être des personnes influentes. Ceci dit, avec une petite réserve, parce que la photo d'après, je crois me souvenir, j'ai dû la laisser. Oui, voilà. Alors, vous avez un autre magazine, un magazine américain aussi, le magazine Forbes, qui a fait le classement des animaux les plus influents du monde. Donc, vous avez Grumpy Cat, Jif Pomme, Nala Cat, Médor, Mirza, Titi... Parce qu'en fait, ces animaux, vous n'allez pas le croire, ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram et ils ont des milliers de followers. Parce qu'ils bon, sont photographiés, ils sont filmés, ils ont des attitudes, ils sont mignons. On fait « Oh, c'est mignon !» Les gens fondent devant les photos. Donc voilà les animaux les plus influents du monde. Sans doute pour la plupart américains aussi, je pense. Donc en tout cas, ça donne l'impression... que pour pouvoir être influent, il faut avoir une position, il faut avoir des compétences particulières. Mais en tant que chrétien, il faut quand même se souvenir que Jésus nous a demandé d'être influent. Il a demandé à ses disciples d'être influent. Souvenez-vous de, par exemple, de cette parole qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Jésus a demandé à ses disciples d'être le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Or, qu'est-ce qui caractérise le sel? C'est que le sel, c'est cet aliment qu'on va mettre dans, saupoudrer dans la nourriture. Et le sel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'insinuer dans la nourriture. Il va pénétrer dans la nourriture et c'est ce qui va lui donner sa saveur, c'est ce qui va lui donner son goût, qui va donner un plus dans le goût. Et bien c'est ça, influence, le mot influence, ça vient d'un verbe latin, influo, qui veut dire s'insinuer. Et vous avez aussi une autre image qui va être utilisée par Jésus, où il va parler du royaume de Dieu, un peu plus loin dans le même évangile, au chapitre 13, verset 33. où Jésus dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis, même littéralement on peut traduire par caché, dans 3 mesures de farine. Donc ça représente 25 kilos de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Donc là, Jésus est en train de comparer le royaume de Dieu à une mesure, une petite mesure de levain qui va être introduite dans la pâte. Le levain, c'est un morceau de pâte fermentée qui va être introduite dans la pâte pour que la pâte puisse lever et que ça puisse donner du pain. Donc ce levain, il est placé, il est comme caché au sein de la pâte. Et son effet va se faire sentir à partir du milieu de la pâte. Donc ça va être comme ça, ça s'insinue. Et c'est ça l'influence, en fait. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'influence. Il faut quand même considérer que quelqu'un comme l'apôtre Paul, si vous pensez vraiment qu'être influent, c'est forcément être dans une position élevée, c'est forcément avoir des compétences particulières, souvenez-vous que l'apôtre Paul a demandé à des esclaves, puisqu'à l'époque où il vivait, il y avait des esclaves dans la plupart des maisons, il a demandé à des esclaves d'être des personnes influentes. Il leur a donné des recommandations, il leur a adressé des encouragements en leur disant, mais c'est vrai que les esclaves étaient considérés comme des outils vivants, comme des objets. Il dit, peut-être qu'on te considère comme un objet, mais tu peux avoir une influence là où tu es placé. Là où tu es placé en fonction de ton comportement, parce que tu ne vas pas contredire, parce que ton service, tu vas le considérer comme le faisant pour Dieu lui-même, tu vas avoir une influence. À des esclaves. Alors si des esclaves pouvaient être influents à l'époque de Paul, je pense que chacun d'entre nous, nous pouvons être influents là où Dieu nous a placés, là où il nous a situés. L'influence, c'est pas l'impact d'un moment. Souvent, c'est peut-être ce qu'on aimerait être, des gens d'impact. Mais l'influence, alors elle a un effet, elle a un résultat, mais l'influence, c'est une action lente et continue qui est exercée sur les gens qui nous entourent, là où nous sommes. Et avec Christ dans nos vies, nous avons les moyens d'être influents. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous. Alors comment faire pour influencer? Comment être des influenceurs, puisque ça, le mot existe. Je voudrais voir avec vous 5 points. Le premier, c'est... On peut influencer tout d'abord en étant influencé. C'est facile de penser que c'est mieux d'être un influenceur qu'être influencé. Et dans le cadre de ce message, je pourrais vraiment aller dans ce sens-là et vous exhorter en vous disant ne soyez pas influencé, soyez des influenceurs, soyez du bon côté de la barrière, pas parmi les influencés, mais parmi les influenceurs, etc. etc. On pourrait avoir ce langage-là facilement en abordant ce thème-là. Mais en réalité, si vraiment on est sincère et qu'on est réaliste, nous sommes constamment sous influence, vous comme moi. Nous sommes toujours sous influence. Nous sommes sous l'influence de ce que nous voyons à la télévision. Nous sommes sous l'influence des membres de notre famille, des amis que nous côtoyons. Nous sommes sous l'influence de nos collègues de travail. Nous sommes influencés par les médias. Nous sommes influencés par les émissions que nous regardons à la télé. Nous sommes influencés par la musique que nous écoutons. Nous sommes influencés par les films que nous regardons. Nous sommes influencés par les séries que nous regardons. Pourquoi est-ce que tous les jeunes de 20 ans se mettent à chanter Bella Ciao aujourd'hui? Ok, grâce à Netflix, on est bien d'accord? A Casa de Papel, si señor. Ça, c'est l'influence des médias. On est façonné, on est transformé. Influence égale transformation. Influence égale changement. Toutes les influences que nous subissons nous changent, nous façonnent, nous transforment. Alors, puisque nous sommes constamment soumis à des influences, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui m'influence ou qui m'influence? Parce que notre propre influence sera déterminée par ce qui nous influence. Il y a un exemple excellent dans la Bible quand on parle d'influence, c'est l'exemple du roi Josias. Josias, quand vous lisez les livres des rois qui nous décrivent l'époque de la monarchie dans l'histoire d'Israël, vous avez une formule qui revient très régulièrement. C'est les rois dont il est dit « il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Vous en avez mais des quantités. Vous avez plus de rois qui ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu que qui ont fait ce qui était bien aux yeux de Dieu. Et parmi les exceptions, les quelques exceptions, vous avez Josias. Il devient roi à 8 ans. Quand même, à un âge où on est plutôt influençable. Et c'est un des bons rois de Juda. Et pourtant, quand on regarde, on s'arrête juste à son grand-père, on remonte juste deux générations en arrière. Son grand-père, c'était Manassé. Eh bien, il nous est dit dans la Bible que Manassé, c'était un des rois les pires. Lui, il avait répandu l'idolâtrie dans tout le peuple d'Israël. Il avait construit des autels aux dieux étrangers un peu partout en Israël. Mais pas seulement, pas seulement. Il avait même installé des autels pour sacrifier aux dieux étrangers dans la cour du temple. Et pas seulement, il avait même érigé une statue de la déesse Astarté dans le temple lui-même. Et le pire des pires, c'est que Manassé, il était allé jusqu'à sacrifier un de ses fils. Il avait offert son fils en sacrifice à une divinité qui s'appelle Moloch. Astarté, je vous rappelle que c'est la divinité de l'amour et de la fécondité. Donc les prêtres qui devaient assurer le culte de Dieu, du seul vrai Dieu, se livraient à un culte qui célébrait la sexualité, la sensualité. On en était rendu là. Ça, c'était l'œuvre de Manassé. Il a régné pendant 55 ans. Quand il a terminé son règne, quand il est mort, c'est son fils Amon qui lui a succédé. Il a régné que 2 ans, mais il est allé dans la même direction que son père Manassé. Et lorsque Amon meurt, Josias est porté sur le trône. Jamais le peuple n'était allé aussi loin dans l'idolâtrie et dans l'immoralité. Et Josias vivait dans ce contexte extrêmement corrompu. Son entourage était idolâtre, sa famille était immorale, mais il a été capable de prendre un autre chemin. Et la Bible nous dit qu'à 16 ans, c'est ce qu'il nous a dit dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 34, là où il racontait son histoire, à 16 ans, il nous est dit que Josias commence à rechercher le Dieu de David, son père. Il a remonté beaucoup, beaucoup plus loin que la génération de son père, celle de son grand-père et même celle d'avant. Il va regarder au Dieu de David, son père. Et ça va aboutir, 4 ans plus tard, à la destruction des idoles. Et il va même conduire le peuple à renouveler l'alliance avec Dieu. Il va y avoir une célébration extraordinaire de la Pâque qui va marquer le renouement là, de la relation de Dieu avec son peuple. Il conduit le peuple à renouveler cette alliance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on regarde les textes bibliques d'un peu plus près, on s'aperçoit que le prophète Sophonie, dont il y a un livre qui porte le nom dans la Bible, le prophète Sophonie était très certainement de la famille royale et il vivait à l'époque de Josias. Donc ça veut dire que dans son entourage, même si l'immense majorité des personnes étaient dans la voie de l'immoralité, dans la voie de l'idolâtrie, il y a une voix, celle du prophète Sophonie, qui dénonce l'idolâtrie, d'ailleurs dans son texte, que Josias a pu entendre. Une autre influence. Et puis aussi, on sait que Jérémie, le prophète Jérémie, qui a eu un ministère extraordinaire, pénible, mais quand même extraordinaire, Jérémie, il a commencé à exercer son ministère lorsque Josias régnait. Donc quand Josias avait 20 ans. Et 20 ans, c'est le début de la réforme de Josias, c'est quand il commence à balancer toutes les idoles. Donc il y avait 2 personnes dans l'entourage de Josias qui avaient un discours différent, qui se démarquaient du reste de la famille royale et du peuple et qui ont eu une influence déterminante sur Josias. Le contexte dans lequel nous vivons n'est pas une excuse pour ne pas influencer autour de nous. 2 personnes, peut-être, simplement, ont fait la différence dans la vie de Josias, alors que tout le reste de la société, tout le contexte familial, social, disait le contraire. Ce n'est pas une excuse, le contexte dans lequel nous vivons. Il y a des influences qui nous bloquent et il y a des influences qui nous propulsent. Il y a des influences qui font qu'on reste ce que l'on est et que ce qui est autour de nous reste ce que c'est. Et il y a des influences qui nous poussent à changer les choses. Il y a ce personnage très connu, un neuropsychiatre très connu qui s'appelle Boris Cyrulnik, très souvent invité sur les plateaux de télé. Il a écrit pas mal de livres et il a dit « Le paradoxe de la condition humaine, c'est qu'on ne peut devenir soi-même que sous l'influence des autres. » D'où la nécessité, consciemment, intentionnellement, de choisir nos influences et de se poser cette question. Mais qu'est-ce qui m'influence? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'écoute? Qui je fréquente? Parce que tout cela, ça va déterminer la qualité de l'influence que moi, je pourrais avoir sur mon entourage. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des modèles inspirants. Il faut se tourner vers des personnes inspirantes. Il faut trouver des gens qui vont exercer cette influence positive et bienfaisante qui va déterminer ma propre influence. C'est pour ça qu'il faut fréquenter des personnes, pas qui nous bloquent, mais qui nous propulsent, qui nous encouragent par leurs paroles, par leurs exemples. Parce que les meilleurs influenceurs sont les gens qui sont les mieux influencés. Ce qui se passe en amont va se traduire en aval. Ok, pour cette première clé, être influencé. Deuxième clé, on peut bien influencer et influencer en étant sûr de ce que l'on croit. S'il y a bien quelqu'un à qui Dieu a demandé d'être influent, c'est Moïse. Ça, c'est un exemple qui me parle beaucoup. C'est Moïse. Moïse, il a influencé, il a été appelé par Dieu à être un influenceur, mais pas en tant que fils adoptif de la fille de Pharaon. Là, il aurait eu la position, il aurait eu le titre. Ben, on voit bien que justement, ce n'est pas ça qui fait qu'on peut être des personnes d'influence. Non, il va être appelé par Dieu à influencer en tant que berger, un peu perdu dans le désert, là, dans le pays de Madian. Et quand Dieu va lui apparaître, il est dans le désert, et puis vous savez, hein, c'est le buisson qui va s'enflammer, il va s'approcher, et puis il va avoir cette rencontre avec Dieu. Et en Exode, chapitre 3, au verset 13, il est dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, parce que c'est ce que Dieu lui demande. Le peuple d'Israël est en esclavage en Égypte depuis de nombreuses années, des générations et des générations, mais je te choisis et tu vas aller prendre la tête du peuple pour libérer Israël. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et c'est là que Dieu va se révéler au travers de son nom. Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. La question que Moïse pose à Dieu, c'est qui es-tu? Dis-moi qui es-tu? Dis-moi quel est ton nom? Dans l'Antiquité, le nom révélait la personne. À Moïse, sauvé des eaux, Jésus, Dieu sauve, le nom révèle la personne. Connaître quelqu'un par son nom, c'est bien connaître la personne. Et en lui demandant son nom, Moïse dit à Dieu, « Je veux te connaître. Je veux être sûr de qui tu es. Parle-moi, dis-moi ton nom. Comment tu t'appelles ?» Il avait compris que ça, c'était la condition indispensable pour qu'il puisse parler de Dieu avec assurance. Je ne peux aller vers le peuple, je ne peux exercer cette influence que si je sais parfaitement, le mieux possible, qui tu es. Et d'ailleurs, Moïse, on le voit continuellement dans cette démarche. À un moment donné, il va même demander à Dieu, « Montre-moi ta gloire, révèle-toi encore plus. » On a tous un système de valeurs et de croyances. Vous, moi, et même les gens qui ne sont pas croyants, les gens qui ne croient pas en Dieu, ils ont aussi un système de valeurs. Ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient en d'autres choses. Et tout ça, ce sont des filtres par lesquels nous comprenons le monde. C'est ce qu'on appelle la vision du monde. Nous avons une vision du monde. Chacun, on a tous un prisme par lequel on voit et on comprend le monde. Et pour les croyants, c'est ce qu'enseigne la Bible qui va déterminer notre vision du monde. La Bible nous permet de connaître Dieu. La Bible nous révèle Dieu. Plus nous connaissons la Bible, plus nous laissons le Saint-Esprit là, nous imprégner au travers de ce que la Bible nous communique, et plus nous connaissons Dieu. Et tout ça, ça dépose des certitudes dans notre cœur, sur l'amour de Dieu, sur la joie de Dieu, sur la fidélité de Dieu, sur le salut accompli par Jésus. Toutes ces choses-là, ça passe au travers de la Bible, le Saint-Esprit vient le déposer sur nos cœurs, et ça place en nous des convictions que nous allons pouvoir exprimer et qui vont influencer les gens qui nous entourent. On sait comment réagir, on sait comment agir même à partir du moment où on est imprégné, influencé par la Bible. Si on rejoint les autres dans la plainte quand ils se plaignent, on n'aura aucune influence. Si on rejoint les autres dans la critique quand ils critiquent, nous n'aurons aucune influence. Si nous rejoignons les autres quand il y a une blague vulgaire et qu'on rigole avec les autres, nous n'aurons aucune influence. Si quand il y a des problèmes, on panique, on s'affole avec les autres, nous n'aurons aucune influence. Les chrétiens les moins influents sont ceux qui sont les moins fondés dans leur foi. Moi, je suis frappé quand même quand j'entends des hommes politiques parler à la télé. La force de conviction qu'ils sont capables de dégager. Ils sont là pour convaincre. Il n'y a aucun argument qui leur fait peur. Alors, ils s'entraînent bien, hein, ils sont briefés. Hein. Mais il y a une force de conviction qui se manifeste quand même. Et ben, c'est la même chose pour nous, en fin de compte. Les chrétiens les moins influents, ce seront ceux qui seront les moins fondés, qui auront le moins de conviction. Parce que comme leur vision du monde n'est pas bien fondée, ils vont inévitablement être beaucoup plus perméables aux influences extérieures. Par contre, les chrétiens les plus influents, ce sont ceux qui sont les mieux fondés dans leur foi. Comme leur vision du monde, elle est solide, elle est bien fondée, ils sont beaucoup moins perméables aux influences extérieures. Alors si au lieu de se plaindre, on cherche des solutions, ça influence, on se démarque. Si on fait des propositions au lieu de critiquer, là on peut avoir une influence. Si on garde son calme dans les coups durs, là on va avoir une influence. Tout ça, ça va dépendre de ce qu'on va recevoir et de ce qui va constituer notre solidité spirituelle et intérieure. Certainement que notre responsabilité, elle n'est pas toujours engagée dans le monde tel qu'il est. Mais par contre, notre responsabilité, elle est engagée dans le monde tel qu'il devrait être. Et tel que j'ai la possibilité de le construire à mon niveau, là où je suis, dans ma famille, sur mon lieu de travail, dans mon quartier. Ça, c'est ma responsabilité. La façon dont je réagis, la façon dont je dirige mes équipes au travail, la façon de faire des affaires, la façon d'éduquer mes enfants, tout ça, ça influence le monde. Et ça influence les gens qui sont dans mon entourage. Ça, c'est la deuxième clé. Troisième clé, comment influencer en étant sûr de qui je suis, de qui l'on est. On revient à Exode et on va voir une autre question ou une affirmation, une question de Moïse, chapitre 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Qui suis-je ? Voilà la question que Moïse pose à Dieu. Moïse, il voyait tous les obstacles qui allaient l'empêcher d'exercer son influence. Dire, mais pourquoi, quand je vais aller vers eux, je leur dire Dieu m'envoie, mais pourquoi est-ce qu'ils vont me croire ? Ils vont dire, mais oh, c'est pas le soleil du désert qui t'a tapé sur la tête, là. Dieu te parle au travers des buissons qui brûlent pas, ce genre de choses. Dire, pourquoi est-ce qu'ils me croiraient ? Pourquoi, comment est-ce que je pourrais les convaincre ? Comment est-ce que je pourrais être influent alors que je bégaye, je bafouille, je sais pas bien parler ? Non, vraiment, c'est pas pour moi. Il le dit à Dieu, il dit, non, c'est pas pour moi. Trouve quelqu'un d'autre, ce serait tellement mieux qu'il y ait quelqu'un d'autre qui remplisse cette mission, qui exerce cette influence. Envoie quelqu'un d'autre. Le moins qu'on puisse dire, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais il se passe quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Moïse. Il y a une rencontre avec Dieu. Il rencontre Dieu. Il entend la voix de Dieu. Dieu lui parle. Dieu lui confie une mission. C'est énorme, énorme. Mais pourquoi est-ce qu'il dit « Qui suis-je pour accomplir tout cela ?» Parce que Moïse, il reste dans son identité de perdant. Il avait essayé de libérer le peuple auparavant, et puis ça avait échoué. Hein. Je vous renvoie à la lecture du début du livre d'Exode, chapitre 2 notamment. Il avait essayé de prendre les choses en main, et puis ça avait loupé. Et donc, il y avait toute cette dimension d'échec dans la vie de Moïse. Et là, il dit « Mais qui suis-je » D'une certaine manière, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Et il reste dans son identité de berger. Il dit, moi, ça va, m'occuper des moutons dans le désert, mais s'occuper du peuple, non. Sauf que Dieu lui dit, mais là, tu passes dans une nouvelle étape dans ta vie. Je suis en train de te parler, je suis en train de me révéler à toi. Donc maintenant, tu changes d'identité. Tu n'as plus cette identité de perdant, tu n'as plus cette identité de berger, tu endosses l'identité de chef du peuple d'Israël. Voilà ce que Dieu lui dit. Tu dois revêtir cette nouvelle identité. Tu n'es plus le même maintenant que tu m'as rencontré, maintenant que je t'ai adressé ma parole. Tu n'es plus le même, tu ne peux pas rester le même. Avant, tu agissais par toi-même, ça t'a conduit aux échecs, ça t'a conduit à la houter, à garder les moutons dans le désert. Mais maintenant, on va faire les choses ensemble. Verset 12, Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Si je t'appelle, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne, là où tu es en ce moment. Parce que je serai avec toi, tu auras assez d'influence pour conduire le peuple jusqu'ici, où il recevra ma parole et où on fera alliance ensemble. Parce que c'est sur cette montagne que ça va se passer. L'un des résultats de bien connaître la parole, c'est de savoir qui l'on est vraiment, quand on devient enfant de Dieu. Pour accomplir ce que nous avons à accomplir, il faut avoir une perception juste de ce que nous sommes en Christ. Et là, il y a vraiment une démarche de foi à faire. Une démarche de foi à faire parce que nous sommes appelés les uns et les autres à influencer. Comme Moïse, il se sentait peut-être incapable, il ne pensait pas qu'il avait la position, le niveau social, tout ça, mais il était appelé à influencer. Alors, peu importe ton passé, peu importe tes échecs, peu importe là où tu es dans l'échelle sociale, parce qu'en Christ, tu as tout. Tu as tout pour influencer les gens et les amener à découvrir Dieu tel qu'il est vraiment. Et peut-être même les amener à découvrir, comme toi tu as découvert, que ce Dieu d'amour et que ce Dieu qui t'a parlé, il va parler aux gens que tu vas amener sur la montagne, comme Moïse. Mais il faut rentrer dans cette identité. Il y a tellement de choses. Nous avons, quand je dis que nous avons tous ce dont nous avons besoin, c'est qu'il faut véritablement se saisir, comme je le disais tout à l'heure, de ce que dit la parole de Dieu, de ce qu'elle nous donne. Et ça, c'est le challenge auquel nous sommes constamment confrontés, c'est qu'est-ce que je fais de la parole que je reçois ? Constamment, on en a parlé il y a un mois, mais finalement, c'est ça. Je me sens abattu, je me sens sans force, mais Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est la parole de Dieu. Dieu me dit, Dieu m'appelle, je dois être quelqu'un d'influent, je me sens incapable d'influencer, je n'ai pas la force, mais je peux tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est la parole que Dieu te donne. Tu te sens dans la détresse, tu te sens dans la faiblesse, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est ce que dit la parole. Voilà, oui, ça tangue, c'est compliqué pour moi, je ne vois pas comment je vais pouvoir être influent dans ces moments-là, dans la souffrance qui est la mienne, dans l'épreuve qui est la mienne, mais parce que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, je peux influencer. Je me sens condamné par mes fautes, je vois bien qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, je vois ce que j'ai commis comme erreur, mais il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc si ce sentiment de condamnation s'impose à toi, ton identité te dit « tu n'es pas condamné ». Ça y est, c'est terminé, la dette a été payée, tu peux être un influenceur. Tu te sens incompétent, trop faible spirituellement pour pouvoir prendre part à l'œuvre de Dieu, tu te sens disqualifié par tes échecs passés, par tes erreurs, mais la Bible dit « Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, pour que nous soyons saints ». Alors peut-être qu'il y a des choses, tu te sens sali, il y a des tâches, là, c'est ta conscience de ça, mais tu es saint. Alors rentre vraiment dans cette dimension qui appartient et qui est liée à ton identité de croyant et de croyante. Ton passé te rattrape. Il y a des choses que tu avais mis de côté, et malgré le fait que là tu te sois engagé avec Dieu, ça, il y a des choses qui te tirent en arrière. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ce que dit la parole. Le passé, il est là. Je ne peux pas faire sans. Mais ce que je ne veux pas, parce que je suis une nouvelle créature et parce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu, c'est que le passé me tire en arrière, me tire vers le fond. J'ai la possibilité, par l'Esprit de Dieu, de remonter, d'être debout et d'être un influenceur. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous... Peut-être qu'il y en a qui disent Amen sous l'effet de l'enthousiasme. Mais ce n'est peut-être pas le fait de tout le monde. Mais on va dire Amen ensemble pour ceux qui ont du mal à le croire. Et je vais vous inviter à le croire maintenant. Tu es enfant de Dieu. Si tu as fait la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ, si tu as vraiment été au bénéfice de ça, maintenant tu peux dire je suis enfant de Dieu et je peux être un influenceur. Amen.
Amen.
Amen. Que le Seigneur puisse vraiment débloquer des choses en nous. Ah, il y a de l'enthousiasme par là, ça fait plaisir. Allez, quatrième clé. On en est où là ? Ça va. Comment influencer ? Quatrièmement, en étant soi-même. Alors vous voyez que les choses sont quand même intimement liées. Tout d'abord en étant sûr de qui l'on est au travers de ce que nous communique la parole, mais en étant soi-même. Nous influençons les gens quand ils perçoivent qui nous sommes réellement. D'où l'importance d'être nous-mêmes. Parce qu'on peut s'enfermer dans des rôles. On peut s'enfermer dans le rôle du père, dans le rôle de la mère, dans le rôle des parents, on peut s'enfermer dans le rôle du directeur, du chef d'équipe, enfin bon, tout ça. On a une idée de ce que doit être un père, de ce que doit être une mère, de ce que doit être quelqu'un qui a une responsabilité. Et quelquefois, on s'enferme là-dedans. C'est une manière de se sécuriser. Mais quand on agit de cette manière-là, on risque de perdre de son naturel. Et quand on perd de son naturel, on perd de sa sincérité. Et c'est le piège dans lequel est tombé un autre roi, le roi Roboam, dont l'histoire nous est racontée au chapitre 12 du premier livre des rois. Roboam, c'est le roi qui a succédé à Salomon, c'est son fils. Et quand il est monté sur le trône d'Israël, il y a les représentants du peuple qui sont venus le voir pour lui demander d'alléger les charges qui pesaient sur le peuple d'Israël. Parce que Salomon, c'était un roi glorieux, il avait entrepris de grandes constructions, à commencer par le temple, le palais royal, et puis des forteresses un peu partout dans le royaume. Sauf que tout ça, ça coûtait cher et ça mobilisait le peuple d'Israël en hommes et en ressources. Donc ça pesait lourdement. Alors les représentants du peuple viennent voir Roboam dire « allège les charges ». Roboam, dans un premier temps, va consulter les conseillers de son père, conseillers expérimentés. C'est ce qu'on lit au verset 6 et 7. Et le conseil qui va être donné par ces conseillers-là, c'est « accède à leur demande ». Réponds à leur demande, rends leur service, surtout ne te crispe pas, ne te raidis pas, sois bienveillant, ça c'est un mot important, sois bienveillant, et là tu vas les gagner. Ce sont les propres conseillers de Salomon, ceux qui étaient aux côtés de Salomon, qui l'avaient accompagné dans sa politique auparavant, qui lui donnent ce conseil-là. Alors Roboam, il entend ça. Mais il ne va pas se contenter de ça. Il va aussi faire venir de nouveaux conseillers. Tous ceux qui avaient grandi à la cour royale à ses côtés. Ses potes, en fait, ses copains, son entourage à lui. Et puis là, c'est carrément un autre langage. Au verset 10 et 11, là, c'est « Mais comment il te parle ? C'est pas normal qu'il te parle comme ça. Parce que le roi, c'est toi. Alors, il faut que tu leur montres qui est le roi. Donc, tu ne vas pas baisser les charges. Au contraire, tu vas les alourdir. Tu vas leur montrer qui c'est qui commande. » Il dit, et c'est Roboam, il va utiliser l'expression qui est utilisée par ses conseillers. Il dit, mon petit doigt est plus lourd que les reins de mon père ou que le corps de mon père. Vous voyez ce que ça veut dire ? Donc, attendez-vous, là, il va y avoir du changement, mais pas dans le sens que vous croyez. Et Roboam suit l'avis insensé de ses nouveaux conseillers. Et ça, c'est ce qui provoque, ça va avoir une conséquence terrible, la division du peuple. Là, on a un bon exemple de comment on influence de la manière dont on a été influencé. Et on voit comment Roboam s'est enfermé dans son rôle de roi et il n'est plus accessible. Quand nous sommes en Christ, nous pouvons sans crainte être nous-mêmes. Parce que, justement, on trouve notre sécurité en Christ. On trouve notre sécurité dans la foi et dans la confiance que nous plaçons en lui, dans ce que nous avons vu, dans tout ce que nous révèle la parole. Et ça, c'est ce qui permet justement de rester accessible, de rester naturel, sincère, comme je le disais tout à l'heure. Si notre sécurité, nous la trouvons dans notre rôle, si nous nous reposons sur la manière dont nous concevons les choses, on peut se sentir contesté. C'est ce qui est arrivé à Roboam. Et alors là, on se place en situation de supériorité. Mais si notre sécurité, elle est en Christ, ça nous permet d'admettre nos faiblesses. Ça peut nous permettre d'admettre même nos erreurs. Ça, c'est hyper important parce que ça désamorce les tensions. Et on a tous vécu ça, à une échelle à une autre. Mais il y a des moments, là, on sent qu'il faut que ça soit désamorcé. Et bien là, quand on n'est pas enfermé dans notre rôle, on reste accessible. Et ça permet de désamorcer ce genre de tension. Ça permet de rester en position d'apprendre des autres. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ça, c'est vraiment... Je pense que ça fait partie des choses qui... On pourrait peut-être même faire un message entier là-dessus. Parce que... Jésus a été vulnérable. Au jardin de Gethsémané, moi, je vois quand même quelqu'un qui est vulnérable, quelqu'un qui demande à ses amis « mais j'ai besoin que vous soyez à mes côtés ». Devant la tombe de Lazare, il était vulnérable puisqu'il a été ému là aussi. Donc Jésus, c'est l'incarnation, c'est Dieu qui se rend vulnérable. La croix, quand même, tout ça, c'est... Et on ne sait pas trop quoi faire de nos émotions, généralement. On ne sait pas trop comment les gérer. Ça c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué. Donc, on pense que la vulnérabilité, c'est de la faiblesse. Mais en fait, je trouve que la vulnérabilité, c'est plutôt source d'authenticité. Le fait de ne pas toujours avoir les réponses fait qu'on reste quand même à la portée des gens. Vous voyez, on n'est pas des surhommes ou des surfemmes. On reste comme les autres et les gens, ils le voient. Et ça crée des ouvertures. Et ça donne la possibilité d'influencer. Et le dernier point que je voudrais voir avec vous, c'est influencer, comment influencer, en accordant une véritable importance aux personnes. Une véritable importance aux personnes. Notre influence est proportionnelle à notre capacité à être attentif à notre entourage. S'il y a bien quelque chose qui caractérise Jésus, là aussi, c'est qu'il a été attentif à ceux qui l'ont entouré. Il a su écouter les gens, il a su prendre en compte leurs besoins, c'est pour ça qu'il a guéri, c'est pour ça qu'il a enseigné même, parce qu'il n'y a pas que ce qu'il faisait au niveau du corps, il y a toute la dimension spirituelle du salut. Et on voit les disciples qui font la même chose dans le livre des Actes. Et aussi Paul qui fait ça avec Timothée. très attentif à Timothée. Dans les lettres que Paul adresse à Timothée, il ne lui donne pas que des consignes pour bien gérer les églises, pour être un pasteur efficace. Il prend aussi en compte ses besoins, et sur différents plans. Il prend en compte ses besoins sur le plan moral, notamment. Par exemple, il le félicite pour sa constance. Il dit « Tu as toujours été fidèle au bon enseignement, à la doctrine. » Donc, voilà, il met en avant ça. Il l'encourage à dépasser sa timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, un esprit de force, de sagesse. Même quand il dit « Mais que personne ne méprise ta jeunesse », c'est parce que, visiblement, Timothée, il devait être un peu effrayé par les personnes qui étaient plus âgées. Dans cette époque, à cette époque-là, la société est très, très hiérarchisée, donc beaucoup de soumission par rapport aux anciens. Donc, il l'encourage à dépasser sa timidité. Il lui rappelle les prophéties qui ont accompagné son entrée dans le ministère. Souviens-toi, là, quand les anciens t'ont imposé les mains, Dieu t'a parlé, Dieu t'a encouragé. Reviens à ces paroles, parce que ces paroles-là, c'est les paroles qui doivent accompagner ton ministère. Et puis il prend même en compte ses besoins physiques, puisqu'il a mal au ventre, Timothée, il a mal à l'estomac, donc il lui donne des conseils aussi pour se soigner. Vous irez voir les conseils qu'il lui donne. Paul ne prend pas seulement en compte tout ce que Timothée peut apporter à l'œuvre en tant que collaborateur, mais aussi la personne même de Timothée. Ça, c'est une tendance qu'on peut avoir. C'est voir ce que les gens peuvent nous apporter. C'est ça. Si par exemple, le voisin, vous voyez juste la personne qui peut vous prêter les outils dont vous avez besoin pour aller bricoler ou pour faire le jardin, la relation ne va pas aller très loin. Est-ce qu'on va vraiment avoir une influence si on est toujours voisin, j'ai besoin d'un marteau, d'une scie, d'une bêche? On ne va pas être tellement influent. Est-ce que je vais vraiment être influent si je vois dans mon collègue la personne qui va pouvoir faire le travail que j'ai pas envie de faire, par exemple? On lui dit, tiens, tu peux lancer la réunion juste 15 minutes, puis finalement on lui laisse les clés. Vous voyez, c'est voir ce que les gens peuvent nous apporter. On voit chez les autres les compétences, la disponibilité, la bonne volonté, mais pour atteindre nos objectifs. C'est ce qui peut se passer dans le monde professionnel. Et c'est là qu'on peut faire la différence. Envisager les personnes pour ce qu'elles sont et pas seulement pour ce qu'elles nous apportent. Et là, vous allez avoir de l'influence quand vous envisagez les personnes dans leur globalité, dans leur totalité. Il y a quelqu'un qui a écrit un ouvrage dans les années 30, ça remonte quand même, « Comment se faire des amis ?» Il s'appelle Dale Carnegie, c'est quelqu'un qui est un conférencier américain très influent, qui s'est intéressé à tout ça. Il a dit, tu peux te faire plus d'amis en 2 mois si tu t'intéresses aux autres qu'en 2 ans si tu attends que les autres s'intéressent à toi. C'est bien trouvé. Là, il y a vraiment quelque chose qu'il a bien compris, je pense. Et oui, c'est ça. Alors c'est ça, s'intéresser aux autres, les envisager de manière plus globale. Il y a quelques années, dans mes années les plus glorieuses au niveau professionnel, je distribuais des prospectus. Donc il fallait qu'une fois ou deux fois par semaine, j'aille à l'entrepôt et puis tout ce que vous avez dans vos boîtes aux lettres, là, les trucs qui vous énervent, parce que vous ouvrez la boîte aux lettres, boum, ça tombe, j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait ça. Et il y avait quelque chose qui était pénible, c'est que la personne qui était responsable, elle ne se souvenait jamais de comment je m'appelais. Quand j'arrivais, bonjour monsieur, il disait monsieur, comme il ne se souvenait pas, il disait, bonjour monsieur, même une fois il l'a sorti, il a dit, bonjour monsieur machin, vous avez déjà été appelé machin? C'est pas très agréable. Une des choses quand même qui fait plaisir aux gens, c'est de se souvenir de leur prénom et de leur nom. Parce que, comme je le disais, c'est vrai, ça reste toujours vrai finalement pour aujourd'hui, mais notre nom, notre prénom, c'est notre identité, ça nous représente. Donc, se souvenir... Alors, je sais qu'avec plus les ans passent, et je m'aperçois que plus c'est difficile de retenir les prénoms des gens, donc je m'excuse à l'avance déjà pour tous ceux dont je ne suis pas souvenu, pas à l'avance, ok, voilà. Donc, souvenir du prénom, parce que on se sent unique, on aime bien se sentir unique, et on est unique, fondamentalement, on est unique. Un des grands drames de ma vie, avec l'apparition des réseaux sociaux, c'est que j'ai trouvé quelqu'un qui s'appelait Xavier Leviels. Je dis, mince, moi je croyais que j'étais le seul Xavier Leviels dans tout le monde entier, dans tout l'univers. Et puis non, il y en a un qui habite à Sens, de ce côté-là de la France. Et j'aime pas ça. Parce qu'on se sent unique. Et voilà, il faut qu'on considère et qu'on envisage les gens comme étant des personnes uniques. Vous voyez, ce genre de perception, les questionner sincèrement sur les problèmes qu'ils rencontrent, sur les défis qui sont les leurs, s'intéresser à ce qui les intéresse, pas seulement parler de nous. C'est plus compliqué d'avoir de l'influence si on fait que de parler de nous. Mais si on les laisse parler d'eux, les gens, on va pouvoir être influent. Encourager, féliciter, important. Dans le cadre du travail, c'est nécessaire. Je ne sais pas, avec les gens avec qui vous travaillez, peut-être vous vous dites, mais de toute façon, il sait qu'il fait du bon boulot. Mais non, une parole d'encouragement. Hop, là, on exerce de l'influence. Encourager même les enfants quand ils ont des bons résultats à l'école. Et vous, quelquefois, on a le langage de dire, ah ouais, mais c'est bien, mais tu pourrais faire mieux. C'est bien, mais toi, genre, faut pas qu'il se repose sur ses lauriers quand même, sinon il va... Hein? Non. En fait, il va aller de mieux en mieux s'il est encouragé, si vraiment il est encouragé. Et je pense que ça nous parle à tous, ça, hein, sincèrement. Pas seulement souligner ce qui va mal, mais souligner aussi ce qui va bien, être disponible. Voilà ce genre de choses. Vous savez, on va terminer là-dessus, mais Jésus, c'est certainement la personne qui a le plus influencé le monde. Un jeune artisan, une trentaine d'années, qui a prêché pendant seulement 3 ans, et encore pas à Rome, pas à Alexandrie, mais dans les villages de Galilée, de temps en temps à Jérusalem, mais principalement dans les villages de Galilée, dans les villages plutôt que dans les villes. Et pourtant, aujourd'hui, 2000 ans après, sa parole résonne dans tous les pays du monde. Même là où on ne veut pas l'entendre, même là où on ne veut pas de Jésus, eh ben, la parole de Jésus, elle se fait entendre. Vous avez des églises qui apparaissent, même dans les pays où on ne veut pas en entendre parler. Incroyable, une influence extraordinaire. Il était le Fils de Dieu. Il était l'image parfaite de Dieu parmi les hommes. Il était le roi promis par Dieu pour sauver Israël et pour sauver le monde. Vous imaginez ça un peu? On aurait pu s'attendre à ce qu'il manifeste son autorité royale avec puissance. Il aurait pu avoir une position. Mais toutefois, il n'a pas exercé son influence depuis un trône, mais depuis une croix. L'influence de Jésus, elle vient depuis une croix, là où il a accompli le salut. Là, je vais passer l'éternité auprès de Dieu dans une félicité suprême parce que Jésus est monté sur une croix. Et ironiquement, paradoxalement, qu'est-ce qui était marqué sur cette croix? Voici le roi des Juifs. Son influence, il l'a exercée depuis cette croix. Alors, ce n'est pas la position qui compte. La croix, ce n'est pas la position rêvée pour pouvoir être influent. Non, ce n'est pas la position qui compte pour être influent, mais c'est notre capacité à mourir à nous-mêmes pour que Jésus puisse régner. Jésus nous change, Jésus nous transforme et qu'on puisse diffuser ce qu'il a accompli en nous. Prions pour ça. On va à nouveau louer le Seigneur. Si je partage ça avec vous, très sincèrement, ce n'est pas par souci de développement personnel, ce n'est pas pour vous donner confiance, même si ça peut y contribuer et que vous avez là des choses que vous pouvez utiliser pour votre vie familiale, pour votre vie professionnelle. Mais vraiment, ce qui me motive à partager cela, c'est que je crois que nous avons une mission à remplir les uns et les autres. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes sauvés, nous avons un immense trésor que nous portons en nous, nous sommes destinés à cette vie éternelle. Mais on est si peu. Et je crois que nous sommes appelés. Jésus veut que nous soyons le sel de la terre. Jésus règne là où on le laisse régner. Le royaume de Dieu, c'est comme cette pâte fermentée, ce levain là qui s'insinue et qui fait lever les choses, qui fait grandir les choses. Et j'aimerais vraiment que ce soit aussi dans cette perspective que nous demandions à Dieu sa grâce, que nous demandons à Dieu qu'il nous bénisse ce matin. Seigneur, je te remets vraiment mes frères, mes sœurs, Seigneur. Je te remets ce que nous avons pu partager ensemble. Et je te demande, s'il te plaît, de nous aider à être conscients des influences qui sont exercées sur nous. Seigneur, révèle-nous si ces influences sont bonnes ou si elles sont mauvaises. Peut-être qu'on ne voit pas tout, on n'est pas conscient de tout. Mais j'ai un choix à faire. Seigneur, aide-moi à faire ce choix. Aide-nous à faire ce choix. Que nous puissions être influencés par des exemples qui soient motivants. Que nous soyons influencés par ce qui permet à ta parole de pénétrer profondément en nous. Que nous soyons influencés par ce qui nous permet de développer et d'approfondir toujours plus cette relation que nous avons avec toi. Seigneur, vraiment, éclaire-nous sur cela, Seigneur. C'est tellement important. Parce que nous serons vraiment influents dans la mesure où, par ce que nous serons influencés. Seigneur Jésus, Donne-moi de pouvoir travailler à toujours mieux connaître ta parole, afin que je sois sûr de ce que je crois. Je ne veux pas me laisser balayer par les doutes, je ne veux pas me laisser balayer par les arguments, parce que j'entends et qui peut me déstabiliser, mais je veux avoir cette solidité dans la foi qui me permet là de pouvoir dire qui tu es, qui me permet de pouvoir agir et réagir comme il convient de le faire, conformément à ta volonté. Seigneur Jésus, Seigneur, viens, donne-moi de pouvoir prendre le temps, donne-moi de pouvoir m'investir dans cette connaissance de la parole, afin que je sois solide en moi-même. Seigneur, accorde-nous cette assurance de qui nous sommes. Je suis enfant de Dieu, avec tout ce qu'il va, avec cela. Je te demande que tu nous aides à faire constamment ce pas de foi, de ne pas laisser la parole que nous recevons s'envoler, sans effet, sans qu'il y ait rien qui se passe dans nos cœurs et dans nos vies. Mais Seigneur Jésus, au contraire, donne-nous de voir, de nous percevoir tel que toi tu nous vois, dans ton amour. Nous avons tout à notre disposition pour pouvoir exercer cette influence, pour pouvoir diffuser la joie, diffuser l'amour, diffuser la compréhension, diffuser l'encouragement. Alors Seigneur, donne-nous de vraiment réaliser et vivre qui nous sommes en Christ. Donne-nous d'être nous-mêmes. Donne-nous, Seigneur Jésus, de ne pas être emprisonnés, Seigneur, dans un rôle, mais de pouvoir avoir cette sincérité, ce naturel qui nous rend accessibles. Cette vulnérabilité peut-être aussi. Non pas parce que c'est une faiblesse, mais parce qu'elle nous rend accessible, elle nous rend compréhensible. Parce que Seigneur, nous sommes au même niveau que les autres. La différence, c'est que nous t'avons toi. Et que Seigneur, parce que nous sommes fondés en toi, nous ne serons pas balayés par cela, Seigneur. Donne-nous d'être authentiques. Seigneur, apprends-nous à accorder une véritable importance aux gens. Tu vois mes voisins, tu vois les membres de ma famille, tu vois même mes enfants, tu vois tous les gens qui m'entourent. Je veux vraiment les voir dans leur globalité, tels qu'ils sont, pas simplement pour ce qu'ils peuvent produire, pas simplement pour ce qu'ils peuvent faire. Mais donne-moi de pouvoir voir quels sont leurs défis, quels sont leurs challenges. Donne-moi de pouvoir être à leur écoute, afin, Seigneur Jésus, que je puisse exercer cette influence et que, Seigneur, je puisse ainsi avoir la possibilité d'être entendu, d'être écouté, non pas parce que je vais tout le temps parler, non pas parce que je vais tout le temps parler de ce qui m'anime ou de moi, mais parce que je vais comprendre les autres et qu'ils auront cette liberté, cette possibilité de s'exprimer avec confiance lorsque je suis là. Nous avons tellement besoin de ton esprit, Seigneur, parce que nous voulons rentrer dans la mission qui est la nôtre, Seigneur. Nous voulons dire « me voici », afin de pouvoir être ces influenceurs dont tu as besoin. Notre pays, notre région, notre ville a besoin de ces influenceurs, de ceux qui diffusent l'espoir, de ceux qui diffusent le courage, de ceux qui diffusent l'espérance, de ceux qui diffusent l'amour. Alors Seigneur, donne-nous d'entrer dans cette mission avec cette certitude que tu seras avec nous et que nous aurons cette capacité d'amener les gens là où nous sommes, là qu'ils pourront vivre ce que nous vivons avec toi. Merci Seigneur. Amen Jésus. Amen.